Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Automobilistes, guettez vos boîtes aux lettres, vous n'êtes pas à l'abri d'une très mauvaise surprise.
Si vous avez été flashé avant le confinement, vous avez peut-être été rassuré dans les semaines qui ont suivi en constatant que le PV tant redouté n'arrivait pas. Les contraventions auraient-elles été victimes aussi du virus ? Que nenni ! Elles arrivent avec beaucoup de retard, mais elles arrivent. Christophe Bourou.
Habituellement, il faut une dizaine de jours pour recevoir une contravention pour un excès de vitesse. Avec le confinement, les délais de réception ont été sérieusement rallongés, 4 semaines en moyenne sur le site radarauto.com, et cela peut même grimper jusqu'à 3 mois pour certaines machines installées notamment sur les zones de chantier. Autrement dit, des automobilistes flashés début mars viennent tout juste de découvrir leur PV dans leur boîte aux lettres. Explication, le Centre National de Traitement de Rennes, qui gère toutes les photos, a non seulement tourné au ralenti, mais en plus, il a dû traiter d'autres amendes, celle du non-respect du confinement, soit environ 1 million d'avis de contravention à envoyer. Enfin, attention, si vous avez été flashé pendant le confinement, vous n'êtes pour autant pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Pour les radars, l'État dispose en effet d'un an après votre infraction pour vous faire parvenir le PV.
Christophe Bourou, mince consolation. Si vous avez reçu une contravention récemment, vous bénéficiez des avantages du déconfinement. Vous avez non plus 45 jours pour la contester, mais le double, à savoir 90 jours, et ce jusqu'au 24 juillet, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
8h02 à Houston, aux États-Unis. Dernier adieu à George Floyd.
L'afro-américain de 46 ans, mort il y a 2 semaines après son interpellation à Minneapolis, sera inhumé aujourd'hui dans l'intimité. Mais des milliers de personnes ont pu lui rendre hommage dans la soirée en défilant devant son cercueil. Houston, c'est la ville où George Floyd avait grandi. Philippe Corbet pour RTL s'est rendu dans son quartier, le quartier pauvre du Third Ward.
Sur un mur en briques de ce ghetto, le visage de George Floyd a été peint avec des ailes, comme un ange. Il avait fui la misère et la violence de ce quartier, car comme tant d'autres ici, il a connu les petits trafics, les vols, la prison. Mais il y a 3 ans, Floyd, guidé par sa foi, a laissé à regret sa mère ici. Il devait partir, loin, pour espérer bâtir une vie nouvelle. C'est ce que me raconte Markeda, qui a grandi avec lui.
Je le connais depuis qu'il est enfant, c'est comme un grand frère. C'était un mec bien par nature. Ici d'où on vient, il y a beaucoup de gangs, d'armes. Il est parti dans le Minnesota pour une meilleure vie. Il a changé sa vie. Il avait 3 enfants et une petite fille. Elle ne pourra jamais voir son grand-père. C'est pas normal. Il pleurait en appelant sa mère morte. J'ai l'impression qu'on est toujours esclave. On n'a pas de putain de liberté ici. On a des libertés limitées à certains trucs. Je crois vraiment qu'il s'est sacrifié pour rendre notre vie meilleure. Honnêtement, c'était un sacrifice et des changements arrivent.
Ce soir, il reposera auprès de sa mère.
Philippe Corbet à Houston pour RTL. L'émotion et la colère ont largement dépassé les frontières américaines. Elles ont ravivé en France le sentiment d'injustice. 4 ans après la mort d'Adama Traoré, Emmanuel Macron a envoyé son ministre de l'Intérieur en première ligne. Discours très ferme hier de Christophe Castaner contre les violences policières. Et avec Édouard Philippe, il rencontrera aujourd'hui des policiers et une association à Évry en Essonne, alors que de nouveaux rassemblements sont annoncés, notamment à Paris et à Toulouse. Un chiffre à présent, 217, c'est le nombre de femmes qui se sont suicidées en 2018, victimes du harcèlement de leur conjoint. Le gouvernement veut légiférer pour mieux les protéger et empêcher ces passages à l'acte. C'est la suite du Grenelle consacré aux violences conjugales. Le Sénat examine tout à l'heure un projet de loi contre le suicide forcé pour qu'il devienne une circonstance aggravante. Et cela quelques jours justement après un procès qui s'est tenu à Chambéry. Un homme de 30 ans a été jugé pour la mort de sa compagne Mélissa en 2016. Serge Puyot.
Pour Corinne Perrault, la mère de Mélissa, ce sont le harcèlement, les mots blessants de son compagnon qui ont poussé sa fille au suicide.
C'était une fille qui était joyeuse, qui était heureuse. Elle aimait bien faire la fête comme tous les jeunes et elle a changé, elle ne la reconnaissait plus. Elle s'est retrouvée à ne plus pouvoir sortir. Elle devait être présente pour lui. Elle était devenue son objet. Il y a eu des mots violents. T'es qu'une merde, voilà. Les mots peuvent vous situer. T'es qu'une merde, c'est comme des coups de couteau qu'on inflige à quelqu'un. À chaque fois, je t'en mets un. Cette souffrance accumulée à force, elle n'en pouvait plus. La fenêtre qui était là et le suicide, ouais.
Et Johan, le compagnon de Mélissa, a accepté de témoigner sur RTL pour demander pardon.
C'est un pardon que j'estime très important envers ses parents, même envers elle. Effectivement, avec le recul, oui, des propos trop durs que je regrette. C'est des mots qui dépassent nos pensées. On est dans un état second de colère peut-être. Mais il est trop tard pour les regrets. C'est quelque chose qui est très difficile à porter chaque jour.
Le compagnon de Mélissa, Mélissa qui s'était suicidée sous la pression en 2016, elle avait 23 ans. Joanne, que vous venez d'entendre au micro de Serge Puyot, attend son jugement pour le 26 juin. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis. L'épidémie de coronavirus, malgré l'accalmie en Europe, la situation s'aggrave dans le monde, prévient l'OMS. 136 000 nouveaux cas identifiés pour la seule journée d'hier, c'est le bilan le plus lourd. Le virus sévit désormais principalement sur le continent américain et en Asie du Sud comme en Inde. En France, la Direction générale de la santé insiste sur le maintien des mesures barrières et appelle à ne surtout pas relâcher les efforts.
Des sous pour Airbus, le gouvernement dévoile son plan pour sauver le secteur aéronautique. On y revient dans un instant, c'est toute une filière qui est concernée. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
8 à 10 milliards d'euros pour sauver le secteur aéronautique.
Comme il l'a fait pour l'automobile, le gouvernement sort le chéquier pour tenter de sauver cette filière durement touchée par la crise du coronavirus. Safran et Airbus ont vu leurs commandes chuter de 30 à 40%. 60 des 200 000 emplois du secteur sont potentiellement menacés. Les inquiétudes sont vives sur le site Airbus de Saint-Nazaire notamment. Ce site qui vient d'achever la construction du tout dernier A380. Nicolas Bobby.
Fini l'A380, les Airbusiens, les employés d'Airbus fabriquent désormais mais les cockpits et les tronçons avant des A320, A330 et A350.
C'était un bel avion, dommage qu'il n'ait pas fonctionné.
Un peu inquiète suite à l'A380, à l'A330 aussi qui perd au niveau des cadences. Il faut rester positif, croiser les doigts.
Donc nous on est dans l'expectative, on travaille sur un rythme beaucoup plus lent.
Actuellement, cet apprenti n'a pas de visibilité sur son avenir.
On se pose plein de questions, on se demande si on doit continuer dans la voie ou partir ou pas.
Avec la crise de l'aéronautique, chômage partiel pour 30% des 3300 salariés, mais pas de licenciement sec. Régis Belliot de la CGT.
On est toujours peut-être sous des annonces de plans de départ volontaires, des départs en retraite anticipés. Fin février, on était 630 à 650 intérimaires sur le site. Pour la fin de l'année, les prévisions sont de une trentaine, une quarantaine d'intérimaires. Malheureusement, le premier plan social, il est là.
Dans le bassin d'emploi de Saint-Nazaire, les conséquences pourraient être dramatiques pour la sous-traitance.
Un reportage de Nicolas Bobby.
8h10, la suite du journal de Jérôme Florin. Les Français ne bouge pas assez. Hein.
Rien à voir avec le confinement, puisque l'étude, la longue étude dont on parle à présent et qui est dévoilée ce matin par Santé publique France a été réalisée entre 2014 et 2016. Et comme à chaque fois, elle servira de référence, de gouvernail pour les politiques publiques. Et il en ressort que nous nous activons moins, que les écrans ont gagné du terrain. 71% des hommes font régulièrement de l'exercice et à peine 53% des femmes. Nous sommes de plus en plus sédentaires, Sophie Orange.
Oui, c'est vrai, c'est pas très brillant. L'idéal, ce serait 25 minutes d'activité intense, 3 fois par semaine. Intense, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est l'équivalent de 25 minutes de course à pied, une séance de piscine ou un mini-match de foot. De quoi faire augmenter considérablement votre fréquence cardiaque, c'est l'objectif. Ou alors, si c'est moins intense, comme la marche, le vélo ou la danse, prévoyez une demi-heure 5 fois par semaine. On en est loin. Un peu plus de 2 hommes sur 3 et 1 femme sur 2 seulement sont suffisamment actifs et ça ne s'améliore pas, surtout chez les femmes. La raison, on travaille sans bouger, puis aussi le temps devant les écrans à la maison. Un adulte sur deux passe plus de 3 heures par jour devant une télé, une tablette ou un ordinateur. Situation encore moins bonne pour les enfants. La recommandation de l'OMS, c'est 1 heure d'activité physique tous les jours. Contrat rempli seulement pour la moitié des garçons et 1/3 des filles qui préfèrent jouer aux jeux vidéo que faire du patin à roulettes, jouer au ballon sur le trottoir ou dans les parcs. Et si on allait à l'école à pied plutôt qu'en voiture? Et si on descendait une station plus tôt pour finir à pied? Et si on allait chercher le pain à vélo? Voilà vos défis du jour pour rester en bonne santé.
Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire.
Oui, merci
beaucoup. Sophie Orange.
Et c'est ce que nous répète d'ailleurs à longueur d'année Michel Simès, que nous retrouverons dans quelques petits instants. C'est le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Voici venir l'heure de notre rendez-vous avec nos correspondants en région qui chaque jour vous donnent leurs conseils avisés. Et si vous décidez de vous offrir cet été un voyage spatial sans quitter la Terre, c'est ce que vous nous proposez ce matin en faisant étape à Toulouse. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors cette invitation au voyage spatial est possible à la Cité de l'Espace. Hein ?
Exactement, et je vous amène d'abord sur les 4 hectares du parc en plein air où le public, avant de décoller, forcément fasciné par la fusée Ariane 5 grandeur nature, 53 mètres de haut, Jean-Baptiste des Bois et le directeur de la Cité de l'Espace.
C'est extrêmement impressionnant et ça l'est encore plus d'une certaine manière lorsque on se met au pied, parce que dans les jardins de la Cité on peut l'approcher et là on comprend la puissance qu'il peut y avoir pour s'arracher de la gravité terrestre pour aller vers l'espace.
Voilà, c'est parti grâce au propulseur Vulcain que vous pouvez entendre et voir également à la cité.
Ah bah Vulcain porte bien son nom. Hein. Alors après le décollage, Patrick, bah direction la Lune, hein, qui sera à l'honneur durant tout cet été.
Ah oui, avec surtout l'exposition où le public est invité à marcher sur la Lune. On y découvre même la Terre depuis la surface lunaire et l'image est sublime.
On a des très très beaux jeux de lumière, effectivement. La Terre est bleue comme une orange, j'avais dit pour les Loire, bah c'est tout à fait ça. On voit cette bille bleue dans l'univers.
Et là, il y a un test que vous proposez au public.
Oui, c'est un test assez amusant. C'est-à-dire que là, on est en face de deux pelles. Une pelle, je veux dire, terrestre. Alors, on est sur Terre. Je la prends. Elle est lourde, hein, elle fait plusieurs kilos. Et puis, ben, je prends la même sur la Lune, dans un petit terrain lunaire. Et là, je suis tout de suite extrêmement surpris parce qu'elle pèse 6 fois moins.
Et donc, sur la Lune, les visiteurs se sentent beaucoup plus légers et la tête complètement ailleurs.
C'est impressionnant, on s'y croirait presque, comme si on marchait sur la Lune.
On marche dans les pas des astronautes.
C'est vraiment très joli, c'est très ludique et franchement, j'ai pas l'impression d'être à Toulouse là en ce moment, donc très dépaysant et à recommander.
Bah c'est fascinant, hein. Et puis Patrick, à la Cité de l'Espace, il est même possible de voyager aux confins de l'univers.
Ah oui, grâce au planétarium, Arnaud, l'animateur astronome, vous propose même d'imaginer d'autres vies à des années-lumière de la Terre.
Si on était seul dans l'univers, par exemple, ce serait un sacré gâchis d'espace. On regarde toutes les possibilités qu'il y a, les étoiles, les planètes en particulier.
Donc il y a forcément du monde ailleurs.
C'est une possibilité très forte.
Bon, il faut garder le masque dans l'univers ?
Ah bah oui, c'est recommandé, oui, même un modèle un peu plus poussé, oui.
Allumons les boosters de notre fusée et c'est parti, direction les étoiles.
Voilà, et c'est déjà le retour sur Terre à la Cité de l'Espace où vous pourrez voyager cet été sans aucune limite.
Très beau voyage, sans limite.